Ah, bonjour à chacune, à chacun. Je suis David Rosset, le pasteur de cette communauté. Et puis ce matin, il y a une petite ironie à vous parler du repos, parce que je suis papa d'un enfant de 2 ans qui a très peu dormi cette nuit. Donc je ne sais pas si je vais vraiment incarner la réalité du repos, mais je vais essayer en tout cas, on va dire ça comme ça. Le repos, cette fois... Pour cette deuxième prédication, je l'ai intitulée « Faire demi-tour ». Et on va essayer de voir le pourquoi du comment. Je pense que vous connaissez les paroles de ce chant. Je ne vais pas tenter de le chantonner devant vous tout seul en public, là, ça ne va pas le faire. Mais c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Ça vous dit quelque chose, cette mélodie ? Mélodie qui revient, qui nous fait du bien quand on la chante, mélodie qui est source de paix, source de calme. Et puis, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, parce que cette mélodie, ses paroles sont inspirées d'un passage biblique. Et puis, on va voir qu'il prend encore une autre coloration et qui va un petit peu plus loin, si on se base sur ce passage biblique, qui va plus loin que ce que ce chant nous dit. Je vous laisse le suspense. La semaine passée, on a tous déjà parlé de cette thématique du repos, thématique de saison. Et puis voilà ce que je vous avais dit, que c'était bien pour pouvoir se retirer, de se mettre dans un lieu désert, au calme, d'offrir des temps de méditation à son conjoint ou à sa conjointe, par exemple en gardant les enfants, que ce soit au milieu de la nuit ou pas dans la journée, c'est égal. Laissez de côté votre sacro-saint iPhone, je ne vais pas le jeter, mais je le mets de côté, là, comme ça, on n'en parle plus. Prenez même une Bible papier ou un stylo ou un cahier, des éléments matériels comme ça sur lesquels vous pouvez tomber. Mettre son réveil une demi-heure plus tôt, même en vacances, pour prendre ce temps de méditation, ce temps de retrait avec Dieu. Et éventuellement se fixer un objectif de se dire, ben voilà, pendant ces vacances, je vais découvrir tel et tel livre de la Bible, je vais pouvoir me prendre le temps pour méditer un livre particulier, qu'il soit biblique ou autre. Quelques pistes pratiques pour essayer de vivre ces temps de retrait, de repos en Dieu. Et puis, on a aussi remarqué que les temps de vacances, le repos, c'était souvent cette image du bord de plage avec du sable fin, du soleil du soir, avec différentes choses qui sont là. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup de réactions après ce culte. On m'a dit, mais c'était super bien ce que tu nous as dit, c'était pratique, on a envie d'y aller. Mais on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité à vivre le temps de plage que celui-là. Alors ça va tout seul. Celui-là, ça demande un effort. Et puis on peut se poser la question, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus de facilité à se prendre des temps à la plage, puis ça trouver que c'est le repos? Et puis pourquoi on a plus de peine à se retirer en Dieu et trouver son repos véritablement en lui? Et c'est là qu'on va voir que le chant que l'on a l'habitude de chanter, finalement, il est plutôt partiel. Et puis il manque le coche sur une dimension essentielle du repos selon la Bible. Et quelqu'un qui s'appelle Esaïe vient nous éclairer sur cette question du repos en Dieu. Esaïe, c'est un prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Et souvent, les prophètes, ils sont assez radicaux pour nous mettre le doigt là où ça coince un peu, le doigt là où ça fait mal. Les prophètes, ils sont assez forts pour trouver les mots justes, trouver aussi les bonnes formulations, les bonnes images pour que ça nous parle et que nous puissions peut-être nous remettre en question et évoluer dans nos pratiques. Alors voilà ce texte que je trouve magnifique qui nous parle de cela. « Viens maintenant, c'est le Seigneur qui parle à son prophète Esaïe. Écris cela devant eux sur une tablette. » On est reconnaissant qu'il l'ait fait, on l'a toujours maintenant. « Et grave-le dans un livre. Ce sera pour l'avenir un témoin perpétuel, un témoin pour nous encore aujourd'hui, 2500 ans ou 3000 ans plus tard. » Maintenant, ça se gâte un peu, je vous avertis. « Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des fils renégats, des fils qui ne veulent pas écouter la loi du Seigneur. » qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux visionnaires, n'ayez pas pour nous de vision exacte. Parlez-nous plutôt avec complaisance, ayez des visions chimériques. Comme je vous disais qu'il était direct, il est direct. Détournez-vous du chemin, écartez-vous de sentier, ôtez de notre présence le Saint d'Israël. À cause de cela, ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez votre parole, que vous mettez votre confiance dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, cette faute sera pour vous comme une brèche menaçante qui fait un renflement dans une muraille élevée. En un instant, tout à coup, cette muraille qui paraissait si solide, j'ajoute, elle s'écroule. On la brise comme on brise la jarre des potiers. On la met en pièces, on ne l'épargne pas. Et ces débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Cette jarre ne sert à plus rien. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous nous fuirons à cheval et c'est pourquoi vous fuirez. Nous monterons des coursiers encore plus rapides et c'est pourquoi vos poursuivants seront encore plus rapides que vous. Comme un seul homme, mille fuiront contre un seul les rabrouera. Quand cinq vous rabrouront, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un mât, au sommet de la montagne, comme une bannière sur la colline. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux ceux qui l'attendent. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Amen. Voilà ce fameux verset clé que beaucoup d'entre nous, je suis sûr, savons par cœur. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vous mets la traduction du chant. Vous voyez qu'il n'y a pas tout, hein ? C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Alors, ce n'est pas faux, je ne suis pas là pour en train de critiquer ce que nous chantons et ce que nous avons l'habitude de chanter. Simplement, et je trouve interpellant, on n'a pas vraiment cette mention dans le chant du retour à Dieu. Retour à Dieu comme une condition essentielle, capitale, pour vivre pleinement la paix que nous offre le Seigneur. Et puis non seulement ce retour à Dieu n'est pas là, mais il y a encore cette dernière phrase qui fait partie toujours de ce même verset, qui dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». C'est toujours un peu le problème avec les versets qui sont comme ça tirés de leur contexte. Ils nous empêchent finalement de nous approprier pleinement ce que Dieu veut pour nous. C'est comme si on se contentait, puis on le fait assez souvent avec la Bible malheureusement, un petit coup de gueule de ma part là, on prend un peu ce qui nous arrange, et puis le fait de ne pas prendre la globalité du message, ce qui fait qu'on est toujours un peu en manque. Parce que, précisément, on prend ce qui nous arrange, et puis on a plus de peine à prendre ce qui nous fait un peu mal, ce qui nous fait travailler, ce qui nous fait produire un effort. On est pile dans cette situation, c'est peut-être un exemple par excellence sur lequel je suis tombé là, de se dire, on garde la partie qui nous fait plaisir, et puis la partie qui nous demande des efforts, on la met un peu de côté. Avec ça, le problème, c'est qu'on n'a qu'un peu des traitements un peu placebo, ou bien des succès d'année, ou bien des choses qui vont nous faire avancer un petit bout, mais de loin pas l'ensemble du chemin que Dieu prévoit pour nous. Il perd 90% de sa force, ce verset, si on enlève cette partie, c'est dans le retour à Dieu que sera votre salut. C'est dans le retour. Il y a un mouvement qui nous est demandé. Une nécessité du retour. Nécessité du retour, voire même du demi-tour. Le verbe qui est utilisé, Ça, des versets, des verbes les plus utilisés de l'Ancien Testament. C'est un verbe en hébreu qui s'appelle « chouv ». Vous pouvez le garder comme ça, « chouv »,« chouv », vous y êtes presque. Et c'est le verbe par excellence des prophètes. Donc ça, ça nous dit quand même déjà pas mal de choses. Des prophètes, ils s'adressaient au peuple d'Israël. Et le vocabulaire qu'ils employaient le plus souvent, c'était le vocabulaire du retour à Dieu. Ça nous renseigne sur la nature du peuple et, par solidarité, sur notre nature à nous. On a besoin, nous avons besoin de vivre ces mouvements de retour à Dieu, et je dirais presque de manière incessante. Les prophètes ne se sont pas lassés de répéter ce retour à Dieu comme une condition essentielle de la vie avec lui et du repos en lui. Cette nécessité du retour, on la retrouve dans le Nouveau Testament aussi. Si on pense à la parabole du fils prodigue, cette parabole qui voit le frère aîné rester auprès de son père, et puis le fils prodigue, qui s'appellera prodigue par la suite, mais qui dit « Moi, je n'ai pas tellement envie de rester vers toi, je préfère aller découvrir la vie, découvrir le monde, donne-moi tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire ma part d'héritage, et puis moi, je vais aller découvrir la vraie vie. » Alors il part, ce fils, il reste au loin plusieurs années, il fait quantité d'expériences diverses, il s'éclate, il s'amuse, jusqu'au jour où les ressources viennent à manquer, et puis il sent le besoin de retourner. On peut la retourner dans tous les sens, cette parabole du fils prodigue, mais s'il n'avait pas, à un moment donné, décidé, en son âme et conscience, de retourner vers son père, il n'aurait pas pu goûter au repos qu'il a retrouvé de nouveau dans la maison de son père. On retient souvent la dernière partie où il est de nouveau dans la grâce, où le père l'accueille à bras ouverts, et c'est une réalité. Mais auparavant, il a quand même dû prendre la décision, à un moment donné, de faire demi-tour et de retourner vers son père. Et je crois que c'est ça que nous invite à faire et à vivre le prophète. C'est cette nécessité de faire demi-tour dans nos cœurs, dans nos attitudes, pour goûter pleinement le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas un acte magique qui descend sur nous puis qui nous fait du bien et puis dans un état de calme absolu. Le repos de Dieu, il nous est offert lorsque nous sommes aussi décidés à effectuer ce retour vers lui. Nous avons besoin de ce mouvement-là, comme le fils prodigue a eu besoin de faire ce pas en arrière, ce pas de recul, pour envisager de retourner vers son père. Notre réalité, c'est souvent cette dernière partie de ce verset 15, de ce fameux verset 15. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dans quelle situation se trouve le peuple d'Israël à ce moment, au moment où le prophète lui adresse la parole? Ils sont dans une situation, et là c'est pas, le mot n'est pas galvaudé, ils sont dans une situation de crise intense. Ils sont sous pression militaire de tous côtés. Ils craignent pour leur vie, leur survie, voire même l'avenir de la ville de Jérusalem, l'intégrité de son territoire, l'intégrité de ses villes. Et à ce moment-là, la parole du Seigneur retentit, puis il leur dit « Faites demi-tour et revenez vers moi et je vais vous apporter le repos. » Il fallait y croire hein, quand même, quand on est pressé de toutes parts et puis qu'on est dans une véritable situation de crise, que dit Dieu? Il ne dit pas « Je vais vous envoyer des armées supplémentaires. » Il dit simplement « Faites demi-tour, revenez vers moi, et moi, je vais vous offrir la paix véritable. » On peut comprendre que le peuple ne l'ait pas voulu. Je ne sais pas comment nous aurions réagi, mais certainement que le risque de réagir comme le peuple d'Israël, il est grand. Qu'est-ce qu'ils font, le peuple d'Israël? Et je trouve que c'est très intéressant, ce langage imagé. Mais vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. C'est pourquoi vous fuirez. Nous montrons des coursiers rapides, et c'est pourquoi vos poursuivants seront encore plus rapides. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire, ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette image des chevaux rapides qui sont utilisés plutôt que de goûter au repos que le Seigneur nous offre? Ces chevaux rapides illustrent notre confiance dans les moyens que nous mettons, nous-mêmes, à notre disposition. Or, maintenant, on n'a plus tellement des chevaux, on a plutôt des Ferrari ou bien ce genre de choses. Il y a toujours un cheval dessus, hein, vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'on compte avant tout sur nos propres moyens. Et puis l'exemple Ferrari, il n'est pas par hasard, parce que plus on a de moyens, plus on pense qu'on est en sécurité. Plus on pense que le cheval est cabré, mieux ça va aller. L'attitude de fond du cœur entre le peuple d'Israël et nous, elle n'a pas beaucoup, beaucoup changé. Lorsqu'on est en situation de crise, lorsqu'on est pressé, lorsque précisément on a besoin de repos, notre tendance naturelle, notre volonté première, ce n'est pas de se dire on va se tourner vers Dieu, c'est d'abord de regarder autour de nous quels sont nos moyens à disposition et comment les utiliser au mieux pour fuir et éviter cette situation de crise qui est devant nous. Vous avez dit, nous fuirons à cheval et c'est pourquoi vous fuirez. Nous monterons des coursiers rapides, on essaye d'aller plus loin, la Ferrari, mais les poursuivants seront encore plus rapides que vous. On est finalement au début d'une course sans fin. On est précisément dans l'opposé du repos. Parce qu'une course sans fin, c'est épuisant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir 1, 2, 3, 5, 10, 25, 40, 50 kilomètres. Ça devient très fatigant. Si dans nos vies, on se met dans ce rythme effréné de course, parce que chaque fois on veut compter sur nos propres moyens, le repos, on ne risque pas de le goûter très très souvent. Le repos, il risque de chaque fois nous échapper parce qu'il sera chaque fois à l'étape suivante. C'est notre tendance naturelle. Comptez sur nous. Or du coup, on s'offre ces succès d'années, ces petites paroles qui peuvent nous faire du bien l'espace d'un instant, ou alors on s'offre à grand prix des séjours dans des hôtels de luxe ou différentes choses pour pouvoir s'offrir ce repos. Ce n'est pas le problème de l'hôtel de luxe, c'est l'intention dans laquelle on va dans l'hôtel de luxe. Si on pense qu'on va véritablement trouver là le repos, je pense qu'on met un peu le doigt dans l'œil. Course sans fin, et puis c'est souvent une réalité que j'entends, on n'arrive plus à suivre. On est pris, on n'a pas le temps. On a ça à faire. Une course sans fin, je trouve que ça décrit pas mal notre époque actuelle. On est en train de courir, sans jamais vraiment trouver le repos. Mais je crois que c'est parce que, fondamentalement, on retrouve cette même caractéristique que le peuple d'Israël. On compte sur nos propres moyens. On cherche à se sécuriser de cette manière-là, sans compter véritablement sur le repos que Dieu seul peut nous offrir. On est dans cette fausse sécurité. C'est pourquoi vos poursuivants seront toujours plus rapides que vous. Course sans fin. C'est impressionnant, hein, comme ça nous parle, ces vieilles images, ces images qui n'ont plus grand-chose à voir avec nos quotidiens, on les remet un tout petit peu dans un contexte, et puis on se dit, là, il y a quelque chose de vrai. Puis en plus, il y a plusieurs personnes de notre communauté qui vont faire des camps de chevaux durant ces deux prochaines semaines, donc vous allez pouvoir découvrir encore mieux quelle est la force de cette image. La perspective, elle est claire, de ce retour à Dieu, c'est la perspective d'être enfin en possession du salut, c'est-à-dire de ce qui nous sauve finalement, de ce qui nous sauve de notre course sans fin, de ce qui nous sauve de notre explosion de moyens que nous mettons à disposition pour trouver la paix. Je crois qu'on le sait tous, que la paix véritable se trouve en Dieu. Si on est là ce matin, c'est qu'on la cherche ou qu'on l'a trouvée et qu'on veut l'entretenir. On le sait, mais souvent, comme le peuple d'Israël, on ne la veut pas. Alors une grosse partie du repos et de manière de goûter ce repos, il est dans cet effort de conversion que nous avons à vivre avec notre Dieu. Conversion pour nous tourner vers lui plutôt que de nous tourner vers nos propres moyens. Le salut finalement, ce n'est pas dans le plus de tout ce qu'on pourrait faire et mettre en place, il est plutôt dans le moins. Il n'est pas dans le plus par rapport à toutes nos compétences, nos qualités, nos moyens, nos ressources financières, il est dans le moins, dans le sens où on veut plus de Dieu et moins de nous. Là, c'est le seul endroit où nous pourrons goûter effectivement au repos que Dieu veut nous donner. Alors, pour faire ce demi-tour, je nous invite tout à nouveau, peut-être quand on prend ces temps de méditation, pour ce temps de vacances, de repos, à simplement nous rappeler de notre condition. Ce n'est pas un prêche culpabilisant que je veux nous faire ce matin, pas du tout. C'est plutôt une réalité que nous connaissons bien, mais qu'il est bon parfois de faire remonter à la surface. Nous avons besoin de prendre conscience de qui nous sommes, c'est-à-dire des gens, des croyants, qui avant tout veulent être autonomes, c'est-à-dire nous débrouiller tout seuls, sans compter forcément sur Dieu. Comme le peuple d'Israël, comme les disciples, comme beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont précédés. On est en bonne compagnie. Pas besoin de se faire de soucis à ce niveau-là. Et donc, il y a la réalité de cet effort à fournir afin d'éviter les fausses sécurités. Lorsqu'on me dit qu'on a de la peine à prendre ces temps de repos avec Dieu, lorsqu'on a de la peine à mettre de côté cette demi-heure ou ces trois quarts d'heure ou ce quart d'heure pour prendre du temps avec Dieu, c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien de plus normal. Le fait d'avoir un effort à fournir pour le prendre, encore une fois, c'est normal. Ça fait partie de la vie de tout croyant. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser par rapport à ça. Continuons sur cette voie-là. Continuons sur ce combat qu'il y a à prendre, parce que notre être intérieur et l'ennemi qui nous entoure veut nous faire changer de voie, veut nous faire aller sur notre propre voie sans compter sur celle qui vient du Seigneur. Peut-être c'est la réalité dans votre vie ce matin, eh bien, que ce culte puisse vous permettre de vivre ce demi-tour, que ce soit de manière générale, que ce soit de manière particulière pour votre vie de foi. Mais je vous encourage vraiment à prendre conscience de cette réalité qui fait partie de nos vies, et de s'ouvrir à Dieu véritablement implique un demi-tour, implique un retour sur nos habitudes pour nous remettre entre ses mains. C'est une réalité de notre vie de foi, c'est une réalité de notre vie tout court. Et je vais terminer en vous laissant un mot de témoignage sur lequel... je vais m'appuyer sur ces deux versets qui terminent ce passage que nous avons médité. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous, car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'attendent. C'est vrai qu'au fur et à mesure de mon ministère ici, comme pasteur, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment tu fais pour supporter, ça doit être compliqué, comment tu fais pour vivre tout cela, comment tu fais pour... garder un peu la pêche. Puis je dis, or déjà, ce n'est pas tout le temps, ça dépend déjà de mes nuits. Non. Mais je crois que ce que j'ai pu apprendre durant ces premières années-là, c'est véritablement d'essayer de mettre en pratique ce verset 18. De se dire, oui, conduire une église, c'est une tâche exigeante. Déjà, je suis reconnaissant parce que je ne suis pas tout seul à le faire. Premièrement, ce n'est pas l'église de David Rosset, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis très bien entouré au sein du conseil et par vous tous. Et plus encore, c'est d'avoir réussi, je crois, de plus en plus à prendre conscience que la force et la vie de l'église n'allaient pas devoir compter sur, premièrement, ce que je pouvais accorder, mais premièrement, sur ce que je pouvais attendre de Dieu. Le changement, il n'est pas très, très évident à percevoir du premier coup. Mais je vous garantis que ça change complètement la perspective. De se dire, soit je me mets la pression tout seul comme un grand pour y arriver, soit avant tout, je me dis, je vais m'attendre à Dieu puis voir ce qu'il va faire à travers son Église, à travers chacune et chacun d'entre nous. Ça change complètement la perspective. Ça change complètement la perspective de regarder dans cette direction-là, en comptant sur l'œuvre de Dieu qui nous dépasse, qui nous déplace chaque fois, parce qu'on s'attend à ce qu'il agisse là, puis il agit là. Il s'attend à ce qu'il agisse là, puis il agisse de l'autre côté. Nous, on a nos critères, lui, il a les siens. Mais cette confiance de base, cette confiance qui vient des tripes et du cœur, je crois que c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait que de l'avoir. Heureux, et quand la Bible entend ce terme heureux, c'est vraiment pour signifier quelque chose de fort. Heureux tous ceux qui l'attendent. Et ma prière, c'est que nous puissions, en tant que communauté, en tant qu'individus ici, vraiment faire nôtre cette perspective de bonheur, puis de pouvoir mettre, nous, nos propres mots sur cette joie profonde, ce bonheur profond que nous avons de pouvoir attendre Dieu et pas nous attendre à nous-mêmes. Alors, heureux êtes-vous toutes et tous qui attendez le Seigneur et qu'il vous bénisse dans sa marche avec lui. Amen.